RNC travaille à lever la nouvelle génération, c'est ça, hein, Jean-Marc? Donc en fait, avec Luc, nous sommes la nouvelle génération. Alors j'ai dû me couper les cheveux blancs là, parce que ça ne fait pas très nouvelle génération. Je suis honoré en tout cas de pouvoir partager ici. Je vais commencer par aussi pratiquer une autre valeur, à savoir l'intergénération justement encore, en remerciant ceux pour qui je suis redevable. Parce que si je suis ici, je suis né dans une église à Toulouse, spirituellement. Et pendant une dizaine d'années, j'ai été au bénéfice du ministère de Michel Valente et de l'église là-bas. Et je voudrais être reconnaissant envers lui. Parce que ce que je suis, je crois, c'est aussi un héritage et une grâce reçue de lui. J'ai aussi été au bénéfice du ministère de Fabienne dans le cadre de Flamme. Et j'ai énormément appris aussi à ses côtés. Je voudrais la remercier. Et je voudrais remercier et bénir Philippe Jauré, parce que je ne serais pas ce que je suis ici maintenant, en train de parler, sans lui. Et je crois que c'est juste de savoir honorer et bénir. Ainsi, ceux qui nous ont précédés, de qui nous sommes héritiers, et je crois que c'est pratiquer une valeur, que de le dire, que de l'exprimer. Quand on m'a proposé de partager sur comment incarner la vision du royaume, la question de l'identité s'est imposée à moi, parce que je suis travaillé depuis un moment sur Romains 8, 19, qui dit « La création soupire, attend, avec un ardent désir, la révélation et la manifestation des fils de Dieu. » La création. Tu peux mettre la première slide, s'il te plaît, je ne sais pas comment que ça marche. Super. On l'a fait en même temps, je crois. La création attend avec un ardent désir notre révélation, notre manifestation, notre dévoilement. En fait, c'est Apocalypse le mot. Hein. C'est la révélation, la manifestation de qui nous sommes. Ce n'est pas des œuvres. En fait, c'est des fils, c'est des personnes, et c'est une identité arrivée à la maturité. Et ce texte me travaille encore pour savoir justement la clé. On veut des modèles, on veut des comment, on veut les sept lois pour incarner le royaume, on veut des choses pratiques. Et en vérité, à chaque fois, moi-même, je suis ramené à l'importance d'être, finalement, savoir être pour savoir faire, pour le comment. En fait, la clé, c'est l'être. Et je suis interpellé par comment savoir la création, comment que la création attend. Comment on peut savoir aujourd'hui que cette création, elle attend, mais elle attend avec un désir qui est ardent que nous nous manifestions. Pour moi, l'un des cibles pour cela, c'est les films. Dans les films, aujourd'hui, quand on va les voir, il y a quelque chose de l'ordre de... Les scénaristes ou ce qu'ils proposent manifestent qu'il y a une attente de fils arrivés à l'accomplissement et qui deviennent des sauveurs, qui deviennent des libérateurs, qui deviennent des gens. On attend, on lève les yeux vers le ciel. Je sais pas, Avatar par exemple, c'est quelqu'un d'ordinaire, un handicapé, qui rentre dans une destinée particulière pour venir libérer un peuple, une nation, une ethnie qui risque d'être détruite. Dans ce film, finalement, au fond, moi j'entends, je vois une attente qui est quelqu'un qui vienne pour nous libérer, d'un sauveur en vérité. Mais plus que d'un sauveur, c'est pas Jésus. Je crois que c'est des gens ordinaires qui vivent au quotidien, un handicapé. En fait, c'était un handicapé. Il n'était pas destiné à cela. Mais il y a quelque chose qui se passe et il rentre dans une destinée, il rentre dans une vocation. Même le film Intouchable, il est magnifique ce film. Mais moi je crois, et vous ne trouvez pas que Omar Sy, il crève l'écran quand même. Ah, ils sont forts ces blacks quand même. Ils crèvent l'écran. Mais c'est quelqu'un d'ordinaire. Moi quand j'ai vu ce film, je me voyais au Mirail. Vous savez, plus que blagueur, mais la situation, le film, il est poignant. Hein. Mais c'est un homme ordinaire qui fait quelque chose d'extraordinaire. Il a sauvé ce gars. Pour moi, il est venu le sauver en vérité. Il lui a tendu la sortie de ce qu'il était en train de vivre. Ce qui touche les gens, c'est de voir quelqu'un d'ordinaire qui est transformé, qui rentre dans une mission particulière, qui est capable de sauver quelqu'un. Et plein de films comme ça sont des manifestations de cet ardent désir qu'il y ait la révélation de personnes qui viennent pour nous sauver. Et pour moi, pour ceux qui me connaissent, bon, il y a Captain America, Green Lantern, etc. Des gens ordinaires, souvent des losers. Par exemple, Spider-Man, vous savez, c'est un vrai loser, quoi. Le gars, il est gauche, etc. Il ne sait pas s'y prendre avec les filles, tu sais. Mais il y a une transformation qui se fait. Il est piqué par une araignée et ça devient Superman. Non, Spider-Man. Spider-Man, oui. Spider-Man, excusez-moi. Alors, je ne sais pas qui est-ce que... Pour vous, je ne sais pas quel est votre super-héros, mais pour moi, mon super-héros dans les films, c'est Matrix. Qui c'est qui est comme moi, là? Ok. Ça dépend qui dans Matrix. Mais en fait, c'est Morpheus. Mais sinon, quand même, Neo, quelqu'un d'ordinaire, il s'appelle Mr. Anderson, je ne sais pas si vous voyez dans le film, quelqu'un d'ordinaire. Et puis, je vous résume rapidement le film, un certain Morpheus. Oh là là, il est fantastique dans ce film aussi. Les Black Ops, ils sont bons quand même. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Et quand il crève l'écran, il crève l'écran, quoi. Morpheus se met à chercher quelqu'un d'ordinaire qui a une destinée éternelle, une sorte de destinée. Il s'appelle Neo. Il a une identité secrète, mais il ne le sait pas. Néo, la nouvelle création, en vérité. Il se met à le chercher, jusqu'à le trouver. Il utilise même la prophétie. Il a trouvé une dame, jusqu'à ce qu'il trouve ce gars, il dit, c'est l'élu. Et il vit une nouvelle naissance, vous vous souvenez, la pilule bleue, vous savez, nouvelle naissance, enfin, excusez-moi, j'espère que je choque personne ici de faire cette allégorie. Vous êtes déjà choqués, mais voilà. C'est la nouvelle génération, s'il vous plaît. André dit qu'il prie régulièrement pour moi. Maintenant, il comprend pourquoi. C'est juste une analogie, une parabole des temps modernes. Morpheus, genre Saint-Esprit, cherche l'élu. Et puis... Il va vivre une nouvelle naissance, il va le conduire à prendre conscience d'une destinée qui est éternelle, il va le former au combat, il le forme jusqu'à ce qu'il ne sait toujours pas, qu'il n'accepte pas d'être l'élu. Il tousse, passe, il n'accepte pas. Jusqu'au moment où la pièce tombe, il prend conscience qu'il est l'élu. Et là, au lieu de fuir devant les démons, la clé de l'histoire, il se retourne parce qu'il prend conscience que c'est l'élu. Et il se met à confronter les démons. Parce qu'il sait. Il n'avait pas juste un surnom, Néo. D'un coup, il prend conscience qu'il est véritablement l'élu. Et il se met à confronter. Et là, il y a une scène que j'aime profondément. Tu sais, il revient à la vie, puis les démons, enfin les adversaires se mettent à... Mr. Smith, là, vous savez, peut-être. Et puis, il arrête les balles comme ça. Oh. Tu sais, c'est suspendu. Tu sais, il y a un arrêt sur image. Puis, à un moment donné, il fait. Puis, ça tombe. Et puis là, qu'est-ce que ça castagne, quoi. Ah, j'aime ça. Ça vous donne envie de le voir, ce film-là? Alors, je ne suis pas là pour vous prêcher Matrix. Mais pour moi, la création attend. En fait, ces films nous disent la création attend des élus qui prennent conscience de qui ils sont. Des élus qui prennent conscience, pas simplement un nom de chrétien, pas simplement une identité, faire partie d'un groupe, non. L'être, véritablement, l'identité, je sais qui je suis en Christ. La création attend que nous soyons, que nous nous révélions, que nous soyons manifestés, révélés comme véritablement des fils, pas simplement des enfants de Dieu, mais tout un processus de formation, de transformation pour être véritablement, savoir être. Parce que ce que nous ferons est le prolongement de ce que nous sommes, de notre identité, mais pas simplement su intellectuellement, mais incarné, une sorte de développement, de maturation, de transformation qui vient à maturité, et nous sommes, et parce que nous sommes, nous posons des actes qui sont une traduction de ce que nous sommes. Et les actes, du coup, les œuvres sont le prolongement de notre identité. La création attend, mais la création nous attend en vérité, mais avec un ardent désir, et ces films ne font que ça. Je pourrais en citer encore d'autres, et moi j'aime beaucoup les films. C'est ma manière à moi de me... Le dimanche soir, oh, ça fait du bien. Mais très souvent, je perçois cette création qui attend, qui soupire. On a tous envie, je crois que notre destinée est d'être de super-héros. Je le crois. Jésus, pour moi, c'est un super-héros. Il a le pouvoir sur la nature, il a le pouvoir sur les démons, il a les pouvoirs sur les... Il a le pouvoir, il a l'autorité. Et il nous crée, nous sommes en vérité, au fond de nous. Si on veut être honnête, on aimerait bien, on a tous rêvé petit. Et des fois, il y a des gens encore bien grands avec des cheveux blancs qui continuent de rêver. De changer le monde, d'être sauveur, d'être libérateur. Nous sommes, finalement, au-dedans de nous, c'est inscrit. Je crois que c'est par le Saint-Esprit. Des justiciers, des sauveurs, des libérateurs, c'est au-dedans de nous. Et dans la Bible, moi, j'ai deux super-héros. Et ce super-héros, en fait, c'est quand je déprime, c'est Gédéon, mon super-héros. Parce que je me reconnais bien dans Gédéon. Il dit, mais où sont passés les miracles? L'ange vient et lui dit, hey, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ouais, d'accord, mais ils sont où les miracles? Ils sont où les miracles? Et très souvent, moi, quand je déprime, je dis, Seigneur, on n'a pas la mesure. Je sens au-dedans de moi que je suis fait pour être un super-héros et faire une différence, mais je bute contre la réalité de ce que je vois. Je dis, écoute, je ne vois pas les choses à la hauteur de ce qu'on devrait voir. Et je dis, Seigneur, où sont les miracles? Tu m'appelles héros. Je crois que tu m'as destiné dans le processus de transformation à être un héros, mais en vérité, si je vais être honnête avec toi, écoute, où sont donc passés les miracles? On nous en a raconté, tu sais, les réveils, les machins. Wow, c'est ce qui se passe ailleurs. Nous voulons le voir ici et maintenant. Oh, vous êtes avec moi, là? Ici et maintenant, vous savez, le super-héros, il nous parle, super-héros. Puis il y en a un autre, super-héros. Quand je suis en forme, j'en prends un autre. C'est Joseph. Non, Joseph, moi, quand je lis l'histoire, à chaque fois que j'arrive au point culminant où il pardonne à ses frères, je pleure. Je pleure. Je dis, mais Joseph, avec le cumul du stress et de la pression que tu as vécu, du rejet, tout le reste, et tu dis en pleurant, et après, dès qu'il pleure, il pleure lui, je pleure. Tu sais, je pleure. Et pour moi, c'est un super-héros. En fait, ce qu'il fait là, c'est extraordinaire quand même. On a l'impression que c'est une... Tu sais qu'il n'est pas de la même race que nous là. Ah non, c'est pas un black. Mais enfin, il était bien bronzé quand même. Je crois qu'il était bien bronzé en Égypte et il était en Afrique en plus. Oh yes! Il était bien bronzé, je crois. Joseph, un super héros. Alors j'aimerais dire ce matin, cet après-midi, excusez-moi. Vous savez pas, vous êtes assis à côté d'un super héros. Non, saluez un super-héros, s'il vous plaît. Saluez un super-héros. Et les super-héros ont une langue déliée aussi, hein, en fait. Dès qu'on les libère, wow, qu'est-ce qu'ils en ont des choses à dire? C'est extraordinaire. Regardez ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage. Juste avant, le verset 15 de Romains 8 nous dit « Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Je vais vous dire, il y a vraiment une différence entre... c'est Paul qui dit dans Galates 4, il dit « Quand aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, un esprit d'esclavage. pour être encore dans la carne, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et le verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Donc là, on est dans un autre stade. Si on est héritier, c'est qu'on est, on n'est plus enfant, on est fils. Trois points de suspension. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit a pour ministère de nous prendre du stade d'enfant, de nous amener à maturité et de nous révéler au monde. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est-à-dire, en vérité, le ministère du Saint-Esprit est un ministère de transformation, d'adoption d'abord. Il faut que nous soyons sûrs que nous sommes enfants de Dieu, convaincus que cette chose-là nous bouleverse, nous transforme au point de croire à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est une œuvre que le Saint-Esprit commence et il doit se continuer. C'est un processus qui doit se continuer. Et souvent, ce processus passe par des épreuves, des tests sur notre identité. Et on va le voir, et l'exemple de Joseph va nous servir cet après-midi. La création attend que le royaume soit incarné en nous pour que les œuvres soient données par-dessus. L'essentiel, c'est le royaume incarné en nous. Nous naissons, quand nous naissons de nouveau, nous rentrons, nous voyons le royaume. Mais nous grandissons, nous passons de l'état de bébé, de enfant, jusqu'au état de fils. Dans ce processus, il se produit une incarnation au-dedans de nous, jusqu'à ce que, au moment où on vient à maturité, nous manifestions les œuvres. C'est Paul qui dit aux Galates toujours, Galates pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire un processus de formation, de développement, d'accomplissement, de maturation. Et quand c'est formé, quand notre identité est vraiment établie, il y a comme une manifestation, une révélation. Et puis ainsi, on peut manifester les œuvres de Dieu. Alors, il y a un texte qui me bouleverse. Et on le connaît tous, là. Je pense que Téphéri doit bien connaître ce passage, vous l'avoir étudié, c'est les fils de Séva. Ils vont pour chasser des démons. Je trouve ce texte vraiment fort. Et ils disent, nous te chassons démons à cause, par le nom que Paul prêche, le nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons, écoutez bien ce qu'ils répondent. Nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Vous, qui êtes-vous? Et la réponse à cette question, mais elle est capitale. L'identité, c'est ça qui donne l'autorité pour gouverner. Qui ça nous donne l'autorité pour exercer pleinement le mandat et la mission que Dieu nous a donné. La formation et la maturation de cette identité. Si c'est formé, si c'est établi, si nous sommes là et que nous savons qui nous sommes, ça fait toute la différence. Notre perception de qui nous sommes impacte notre vie de nombreuses façons. Notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre destinée, notre compréhension de Dieu, mais tout. Sinon, on est esclave. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Si ce processus n'est pas enclenché, il se produit une chose, c'est qu'on approche Dieu, on a un regard sur nous-mêmes qui ne nous permet pas du tout d'entrer dans notre destinée. Et en ce moment, dans l'église, je prêche, je fais une série de prédications sur l'intimidation. Et notre intimidation touche profondément et concrètement notre identité. Vous savez, la scène dont je vais parler ici, c'est le peuple d'Israël qui va pour entrer dans leur héritage, pour en prendre possession de ce que Dieu a promis depuis des années. Et en fait, la clé de voûte, moi dans l'étude de l'intimidation, la clé de voûte, ce qui fait tout basculer, c'est quand ils sont dans le désert, ils sont aux portes et Moïse envoie 12 espions. Il envoie 12 espions et quand ils reviennent, tout se joue là, dans leur rapport, le fait qu'ils ne croient pas qu'ils soient capables, le fait qu'ils se voient comme des sauterelles, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, leur identité est la clé où tu rentres ou tu tournes dans le désert. C'est-à-dire, nous nous voyons comme des sauterelles. Mais la vision que nous avons de nous-mêmes, c'était des géants. Ils étaient tellement géants qu'ils ont pris, des grappes sur dos. Ça y est, c'était tellement gros, parce que, a priori, de manière concrète, les raisins étaient tellement gros, c'était à la hauteur de la main des géants. Ils étaient vraiment géants. C'était une réalité. Mais ils ont tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils ont été intimidés. Et ils ne savaient pas qui ils étaient. L'intimidation est la clé pour entrer dans notre héritage et exercer le gouvernement et l'autorité que Dieu nous a donné. On va prendre possession de Canaan, on va chasser les démons, on va y aller parce qu'on sait qui on est. Si tu ne te vois pas accompli, fils, tu ne pourras pas confronter parce que tu auras peur. Et alors, voyez ce texte. Le texte dit, c'est vraiment curieux, hein. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Il y a juste un verset. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Il change quoi son identité avant d'aller explorer la terre promise. Son identité doit changer. Sinon, si son identité n'avait pas changé, s'il n'y avait pas eu tout ce processus de service auprès de Moïse, des années, son caractère transformé, là Moïse dit, mon gars, tu es prêt. Tu es prêt à y aller maintenant. Je vais te révéler. Tu es fils maintenant là. Ton nom est changé. Je t'estampille là. Tu es fils. Je te manifeste maintenant. Tu es Josué. La formation est terminée. Et il y va, il revient, c'est pas le même discours que les 10 autres qui n'ont pas vécu ce processus-là. Il dit, il parle comme il parle, parce que son identité est changée, parce que le processus de transformation est allé jusqu'au bout. Il est prêt. Et Moïse dit à ce moment-là, oui, je change ton nom. Tu étais sauveur, ça veut dire sauveur ou salut, maintenant tu es l'éternel sauve. C'est-à-dire, c'est pas toi qui gagneras la victoire, hein, c'est pas toi qui vas y arriver, mais tu... Alors du coup, quand il revient et qu'il parle... Il dit oui, mais ils sont géants, oui, mais écoutez, c'est l'Éternel qui va nous sauver. On va en faire quoi? Une bouchée. Tu sais, tu te dis, oh, Josué, quand même, t'es sûr de ton coup là? Une bouchée, c'est des géants, des vrais géants, d'accord? Ça va être dur cette affaire là. Non, c'est l'Éternel qui sauve, alléluia. C'est l'Éternel qui sauve, son identité, il sait qui il est. Il sait ce qui a été accompli et intégré dans sa vie. Le processus d'esclavage, ils étaient esclaves. Ils sont devenus fils. Il dit, j'ai appelé hors d'Égypte, mon fils, dit Dieu. J'ai appelé hors, mon fils. Mais eux, ils étaient toujours bébés. Ils étaient toujours, ben, comme la plupart des croyants. Donc, devant l'intimidation, taillot. Devant l'intimidation, le géant arrive, il rugit. Vous savez ce texte qui dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme... un lion rugissant. Le lion, il rugit pour quoi faire? Pour intimider. En fait, ce n'est pas le plus fort hein, des animaux. Hein. Voyez un rhinocéros en face d'un lion. Un éléphant, il est plus fort que le lion. Mais par contre, quand il se met à rugir, là, mais tout se glace dedans de vous. Tu sais, j'aurais aimé amener le son d'un rugissement qui va bien, là, avec les grosses basses. Là. Est-ce que je m'en sors bien, là? C'est moyen. Ah, ça. Je ne vous ai pas intimidé, là, je vois. Mais, retrouvez-vous devant un lion qui rugit. L'ennemi, sa tactique, c'est l'intimidation. Mais l'intimidation sur notre identité, ce que nous sommes. Si nous ne saisissons pas, si nous ne sommes pas fils, nous n'allons pas répondre de la bonne manière devant l'intimidation. Ah, ça. Et le langage est différent, l'attitude est différente, tout est différent. Alors, je vais citer juste un passage, Josué, c'est Jésus, exactement, en hébreu, en fait, c'est Jésus. Alors voyons le sur l'identité. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Jésus, pendant 40 ans, il était formé, et puis il était prêt, il est révélé. 30 ans. J'ai dit quoi? Oh pardon, 30 ans. Il a été formé, et là, maintenant, il est révélé. Mais juste avant de commencer son ministère, il est testé. Et en fait, c'est le test qui fait de savoir si nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts. Et voyez, le diable vient, le tentateur s'approcha de lui, il lui dit quoi? Il attaque sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es. Si ton identité est posée. Ok, bah alors ordonne. Donc la tentation de le pousser d'aller plus loin, mais c'est sur son identité. Et toutes les tentations, c'est si tu... Enfin, la troisième, c'est autre chose. Si tu es. Et si sur ces questions-là, il n'y a pas une réponse qui est claire, comme les démons qui ont dit au fils de Séva, mais vous, qui êtes-vous? Et à cette réponse, s'il n'y a pas une certitude, une conviction, une sécurité, une confiance, quelque chose d'établi qui a mûri, eh bien on va avoir des difficultés, ou en tout cas, on risque de tourner en rond. Dans le désert. toujours savoir être pour savoir faire. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres. Vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu a libéré dans le but afin que, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qu'on est qui déclenche ce qu'on fait. On en connaît d'autres, des textes. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ce qu'on est qui déclenche ce qu'on fait. Et la conscience et la maturation et la révélation de cela fait une sacrée différence. Notre culture est portée vers la performance, vers le faire. Et moi-même, j'ai fait un audit. Je suis en plein dedans là. 50 ministères. Je fais un audit. Mais quelque chose de sérieux. Enfin, de sérieux. J'espère sérieux. Et le résultat fait mal. 50 ministères, on va regarder, on va scanner ce que tu as vécu. Il y a beaucoup de choses qui ont été portées sur la performance. Qui ne sont pas le prolongement de ce que je suis, de l'œuvre de Dieu au-dedans de moi. Et le Seigneur me corrige et me corrige sérieusement. Je ne le fais pas tout seul. J'ai demandé à d'autres de regarder. Et puis les choses qui font mal, je vis de profondes repentances parce qu'il y a des choses, des actes que j'ai posés qui ne sont pas le prolongement de ce que Dieu a accompli et assis au-dedans de mon cœur. On veut se précipiter à faire alors que Dieu veut nous rencontrer comme des fils, des enfants et faire une œuvre profonde de communion, de rencontre et qui fait une vraie différence. Vous êtes une race élue. Oh. Et j'aimerais juste dire ici, vous savez, il y a que deux races en vérité. Il y a plein de couleurs là, mais c'est la même race. Par contre, il y a deux races. La deuxième race, c'est la race de Christ. Il est le premier-né d'une nouvelle création. Et ça fait une différence de grandir à son image. Nous sommes une race élue. Il y a une élection. Et je me dis, on doit grandir dans la conscience que nous sommes des élus. Vous savez, de relever la tête là. Et... conscience de qui on est véritablement. Il n'y a pas de présomption dedans, mais notre identité, savoir le dire. Et du coup, tenir un discours, ne pas avoir peur de tenir un discours du genre Josué dans le désert. Et puis que les autres se retournent et disent, mais t'es pas fou non toi? Tu les vois pas les vrais géants là? Tu les vois ou tu les vois? On a la même réalité, on n'a pas la même réalité. Mais oser tenir un discours, une posture. Vous savez, j'aime bien dire, notre attitude détermine notre altitude. C'est-à-dire, l'attitude intérieure, si c'est l'attitude d'une dignité, d'un fils, je suis un roi, et vous savez quoi, je suis un prince. Et je me regarde comme un prince, je parle comme un prince, j'agis comme un prince. J'ai une attitude, j'ai un positionnement, une identité intérieure qui fait une différence, parce que c'est ça, c'est mon identité qui va avoir une incidence. Je trouve qu'on a un complexe particulier en France. En tant que chrétien, il faut, tu sais, l'attitude intérieure, il y a une dignité. Et je vous dis, je ne te parle pas d'orgueil. L'humilité, c'est une valeur qui est très importante. Par contre, il ne faut pas que l'humilité se fasse au détriment de la confession et de la conscience de qui nous sommes en Christ. Et juste une chose, c'est une nation sainte qui transforme des nations. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes une nation sainte, c'est cela qui va nous conduire à finalement faire des nations des disciples. La conscience de qui nous sommes, une nation sainte, ça donne une dignité. Ça donne une dignité, quoi. Un fils de roi. Oh, alléluia. Mais des princes, il y a quelque chose de la noblesse de Dieu que Dieu doit révéler sur nos vies. Nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Il y a quelque chose d'un habit, d'une posture, d'une attitude. Je lève la tête parce que j'ai conscience de qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. Et ce manque de conscience de qui nous sommes, de notre identité posée, fait qu'au moment où le démon, ou l'opposition, ou la contestation dit, mais qui tu es? Pour qui tu te prends, toi? Pour qui tu te prends? Si c'est pas posé dans nos vies, mais évidemment, on va trembler, on va dire, on va peut-être se ranger, là, parce que ça devient sérieux, cette affaire, là. Ben oui, on va se ranger, c'est sérieux, ça va castagner. Moi, il y a pas longtemps, depuis que je prêche sur l'intimidation, mais qu'est-ce qu'on en a eu des tests d'intimidation? Qu'est-ce qu'on en a eu, mais tous les dimanches? Je dis, ben dis donc, si j'avais su, je l'aurais quand même fait. Mon fils a eu un accident, mais il a failli passer. Vraiment, c'était pas de la blague. Il a été renversé par une voiture à vélo. Et sa tête a retombé sur le pare-brise qui a éclaté. On savait pas si ça avait été touché, si ça avait été... On est arrivé, ma femme a vécu quelque chose ces derniers temps, il y a quelque chose qui se passe par la grâce de Dieu. Elle était en paix, elle m'appelle, elle m'a dit, écoute, il y a eu un accident, mais j'y vais, t'inquiète pas, je t'appelle quand j'y suis. Je dis, mais Je dis, c'est une blague. Ma femme, en règle générale, elle panique dans ce genre de situation. Et dans une paix, on arrive là. Mais Dieu l'a gardé. Mais des intimidations. Est-ce qu'on va y aller quand même malgré les intimidations? On est ensemble là. Oui, l'intimidation. Il rugit. Oui, les oppositions. Oui, les vagues vont venir. Oui, les choses vont être là. Mais c'est notre identité posée en Christ fondamentalement qui va faire qu'on va poser des actes dignes de princes et de rois, des rois prêtres. Des rois prêtres, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple libre, un peuple digne, un peuple qui se lève. Un peuple qui se lève, un Joseph. Alors Joseph est un modèle que j'aime énormément. Je vais finir avec ça. Voici la vision de Joseph, un type d'un fils de Dieu révélé. Tout un processus. Il reçoit la vision, rien que ça. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Mais ça va, il a une estime de lui qui... Et en plus, il ne le garde pas pour lui, il va le raconter à son père, à sa mère, à ses frères. Et évidemment, il tombe jaloux, quoi. Mais il dit, vous savez quoi, moi je suis un prince et un jour, vous allez vous prosterner devant moi. Wow. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y croyait. Il avait une identité posée, c'était un prince, il est né pour régner. Et toutes les étapes de sa vie, il va manifester qu'il est né pour régner. Et que les circonstances ne vont pas déterminer son état ou son attitude intérieure. Il est né prince et il va gouverner, il va avoir de l'influence. Il sait qui il est. Et c'est parce qu'il sait qui il est que d'un coup, ben, il qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mettez un prince dans une situation d'esclavage. Ben, il va transformer la situation d'esclavage à la dimension, à l'état dans lequel il est à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez là? Mettez un prince en esclavage. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire de Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec lui, avec Joseph, et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Jeter un prince en esclavage, il va transformer le lieu de servitude en un jardin. Notre identité va conditionner l'environnement dans lequel nous sommes. Et c'est là la clé. Jeter un prince en prison. Regardez ce qu'il... Il fit saisir Joseph. Alors, ça c'est... Vous savez, Joseph a eu tous les tests. On dit... Alors, on fait une petite révision. Les pasteurs, quelles sont les tentations auxquelles ils sont confrontés? L'argent. L'orgueil. Le sexe. Et là, c'était le coup du sexe, là. La femme de Potiphar a dit, et en plus, il était beau. Joseph, il avait tout bon. Il était bronzé, presque noir. Il était beau. Et puis la femme de Potiphar, tu dis, quand même, tu sais, t'es beau, tu tout réussis, toi. Tu sais quoi, t'as tout, toi. T'es beau, tu réussis. Moi, j'ai envie de profiter, je veux être en communion avec toi. Tu m'attires, quoi. La tentation, franchement, il fuit. Et dans le moment, je me dis, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, si lui, il était de marbre, elle aurait pu essayer, parce que quand même, pour le violer, ça aurait été, il aurait fallu que... Enfin, je ne sais pas, je ne vous fais pas de dessin, là. Non? Il fuit. Mais il fuit avec le sens de dignité. Je suis fait pour régner. Il y a un texte que j'aime. Est-ce que vous saviez que Louis XVII, le fils de Louis XVI, a été enlevé pour être élevé par des hommes grossiers. Il cherchait à lui enseigner la vulgarité. Alors les révolutionnaires voulaient le libérer des convenances de la monarchie, et quand ils voulaient qu'il dise des grossièretés, vous savez ce qu'il répondait? Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire, car je suis né pour être un roi. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire. La conscience que tu es né pour être roi, c'est ça ce qui te donne de te sanctifier. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire parce que je suis né. J'ai conscience que je suis né, mais de toute éternité, je suis né pour être, pour gouverner. Je me garde. Il s'est gardé, Joseph, là, pas parce que de dire quand même, c'est pas bien. Oui, il dit que c'est un grave péché, il peut pas le commettre, ces choses-là. Mais c'est la vision de ce pourquoi il est né, ce pourquoi Dieu l'a créé, ce pourquoi Dieu l'a établi. Cette vision fait que je peux pas le faire. Moi, je suis fait pour régner. Je suis fait pour être roi. Je suis fait pour influencer les choses. J'ai conscience de qui je suis en Christ. Je suis né pour cela. C'est pas simplement être enfant de Dieu, être dans les bras du Père, être consolé. Toutes ces étapes sont importantes. Mais la conscience, comme il avait, que la lune et le soleil et les étoiles se prosterneront devant lui, à cause de cela, il dit, je ne peux pas faire ça. Et il fuit. Ça fait une différence en termes de motivation pour se sanctifier. Je ne sais pas si vous me suivez là. Une différence de « je suis fait pour cela, je suis né pour cela, j'ai une conscience, j'ai une révélation, j'ai une incarnation, une conviction dedans de moi. Alors je paye le prix parce que je sais la destinée que Dieu m'a donnée. Je sais pourquoi je suis né, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi. Je le sais. Toutes les tentations y sont passées. L'orgueil, il arrive devant Pharaon. Pharaon lui dit « mais toi, on m'a expliqué que toi, tu es comme un dieu. » Il dit « non, 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 tu sais quoi ?» C'est la révélation, c'est Dieu qui va te donner la solution. Tous les tests y sont passés, il connaît son identité, il connaît sa place. Le découragement, l'amertume, tout y est passé, des années rejeté, oublié par son père qu'il aimait et qui lui a donné une tunique parce qu'il était bien aimé de son père. Tous les tests sont passés, mais son identité est fondée, il est fait pour régner, il savait qu'il avait une destinée éternelle et parce qu'elle venait, parce qu'il y avait révélation de cette destinée, il savait que c'est Dieu qui lui a parlé, mais il a traversé toutes les épreuves. Et moi je dis... Nous, en tant qu'anciens, en tant que pasteurs, il nous faut une sacrée caution émotionnelle pour pouvoir supporter les pressions. Moi, ça fait 5 ans que je suis pasteur, je peux vous dire, on en encaisse, quoi. Ah ouais. Visiblement ou pas, psychologiquement, les pressions, les attentes des gens, s'il n'y a pas un quotient, là il y a un quotient émotionnel de la part de Joseph, mais on a l'impression que c'est une autre race, quoi. C'est un super-héros. Le cumul, rejeté, tenté, trahi, prison, oublié, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais... Wow. Le quotient émotionnel, pour moi on peut le gérer quand on sait qui on est en Christ. Et pour moi, je me dis, hein, on a besoin d'audit pour savoir la santé émotionnelle qu'on a. Il faut qu'on se soigne. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Il faut qu'on prenne soin de nous. Parce qu'on cumule des choses si on n'a pas su supporter. Parce qu'il y a des moments, Joseph ici, pour moi, c'est un super-héros, il n'y a pas une faute. Enfin, à part de l'avoir dit à ses frères, vous en voyez des fautes ? Il y a un écart chez Joseph. Au moins, Gédéon, il nous aide, quoi. Gédéon, c'est... Gédéon, il nous a aidés quand même. Il dit, c'est dur. Il a fallu que les ennemis aient une vision, un songe qui va les gagner pour qu'ils y croient enfin. Mais Joseph, dès le départ, c'est ça qui nous donne la capacité émotionnelle de gérer la pression, la critique, l'abandon, la trahison. Tout ça fait partie du lot du test de l'identité. Ta réponse au test fait que tu vas rentrer ou pas et vas vivre un moment de révélation ou pas. Alors le moment de la révélation arrive. Alors, je vous ai pas lu Joseph en prison. Je l'ai lu ou je l'ai pas lu ? Bon, à cause de la femme de Potiphar, il est encore trahi de nouveau et il se retrouve en prison. Et quand Joseph arrive... Ah non, attends. Excusez-moi. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la prison d'arrêt qui était détenue par les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qui s'y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Partout où il se trouve, tu jettes un prince en prison, qu'est-ce qui se passe ? Il gouverne. Il est chez Potiphar en esclavage, qu'est-ce qui se passe ? Il gouverne. Il lui confie tout. Il se retrouve en prison... Parce que c'est un prince, il se met à gouverner. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Révélation. Et là, la dernière étape, hein, La révélation, justement, la création attend avec un ardent désir la révélation. Et voilà la révélation. Après le test de l'identité, de qui il est, il arrive un moment où Dieu dévoile celui qu'il a préparé dans le secret et en qui il a semé une vision d'un prince. Et il se retrouve devant Pharaon, vous connaissez l'histoire. Et là, Pharaon lui dit, mais c'est toi qui vas... Non, non, non. Il dit la version avec une sagesse extraordinaire. Vous connaissez l'histoire ? Les greniers de Joseph, du coup, se mettent en place. Et il propose qu'il trouve quelqu'un. Et là, le Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé, aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai pas au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le Pharaon, verset 44, ajoute, Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Ça, c'est un prince qui a pris autorité. Personne ne lèvera le petit doigt. Ça veut dire que là, il a trouvé la perle rare. Le fils, le prince, celui qui sait qui il est. Il se révèle, Dieu le révèle, le sort de la prison, à part tout un travail, un processus. C'est comme je vous disais, Romain enfant, bébé, puis il devient fils, puis il dit, tu es prêt maintenant, comme Jésus, tu es prêt maintenant. Et il arrive, il dit, bon, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Bon, Jésus aussi, il avait pas encore fait de miracle ni rien, mais juste, il est prêt. Parce qu'il a été testé dans son identité, il sort du désert, il dit, je suis prêt, alléluia. Je suis prêt. Mon identité, oui, 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 j'ai su répondre sur le test d'identité, je suis prêt. Et là, Joseph est prêt et il est révélé, il arrive et il prend possession, il est là pour gouverner. Puis Pharaon dit des choses extraordinaires. Rien. C'est un homme. À partir de ce moment-là, vous savez, l'Égypte a prospéré. Prospéré. Il y a eu des choses extraordinaires avec un cœur que vous connaissez l'histoire. Et en fait, je vais finir juste, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé en fait, je suis un peu perdu. C'est bon ? Je vais raconter une chose qui m'est arrivée il y a 4 ans, 3 ans et demi, avec l'équipe de ministère à Montpellier. On a vraiment eu la conviction qu'il fallait qu'on sorte des quatre murs, qu'on aille trouver l'adjointe au maire de notre quartier. Et puis, donc je ne la connaissais pas, et j'ai préparé tous les flyers, des communications de ce qu'on est, ce qu'on fait, etc. Et puis je suis arrivé, j'ai déployé ça sur sa table, pour lui dire, écoutez, moi je suis là pour vous servir. J'aimerais vous servir. Elle a été choquée. Puis elle a une réaction, je lui dis, tiens, pourquoi elle réagit comme ça? Et par la suite, elle m'a raconté, elle me dit, ah, et quand je me suis présenté, nous on a une devise dans notre église, c'est une église protestante du 21e siècle. Donc c'était marqué partout, et je lui dis, je suis pasteur protestant. Et puis, quelques temps après, elle me dit, elle s'est renseignée de droite et de gauche, mais c'est surtout l'impression que je lui ai fait, le désir de servir. Elle est venue me voir, ah, vous êtes bien, quand même, parce que les protestants c'est bon, mais les évangéliques, hein, c'est pas bien. Elle me dit, les évangéliques, c'est des farfelus. C'est des gens, un témoignage, deux témoignages, trois. Moi, j'étais là. J'ai pas trop voulu lui dire que j'étais évangélique sur le coup. Mais elle a découvert par la suite, mais la relation était établie. Vous me suivez là? Et je me suis mis à servir, mais à déployer mon zèle. On a fait un festival de la tolérance, j'ai déployé mon zèle. Elle m'a vu désintéressé. Je sais pas si vous me suivez là. Des années, ça a duré. Et Luc est venu, c'est Jean-Marc qui est venu l'année d'avant, chaque 18 mois, on fait les portes ouvertes sur le protestantisme. Et c'est l'occasion d'inviter très largement, donc adjoint au maire, etc. Elle vient, et puis pendant que Luc était là, on discute, elle me dit, Rodrigue, sur notre quartier, il y a 5 sous-quatre quartiers. Elle dit, je vous ai vu avec votre banque alimentaire, ce que vous faites, et puis ce que tu es, tout ça, j'aimerais te confier la gestion... Écoutez bien, d'un quartier, parce qu'on ne s'en sort pas. Dans ce quartier, il y a des gitans, et vous, vous êtes évangélique, on n'a aucune prise sur eux. Je voudrais rassembler la police, les assistantes sociales, tous les services de la mairie, parce que ça fait des années qu'on n'arrive pas à faire quelque chose dans ce quartier. Ce quartier est juste devant notre église. Et puis, elle s'est battue pour qu'il y ait des panneaux qui indiquent notre église. Je ne sais pas, c'est une sorte des panneaux de la. Elle a envoyé à l'agglo pour qu'il y ait des panneaux qui indiquent Centre Languedoc Évangile, parce qu'elle trouvait qu'on était enclavé un peu loin là. Une faveur, une grâce, elle dit, Rodrigue, on ne s'en sort pas, on a besoin de vous et vous avez des ressources. Et alors du coup, vous savez quoi, à ce moment-là, moi je me suis dit, on va prendre le temps de rassembler des personnes compétentes pour être en capacité de faire une proposition pertinente. Parce que si je me plante là, c'est des années pour me relever là. Or du coup, au lieu de me précipiter, ma tendance, là, ça s'est fait en octobre, lui qui était là, ma tendance, c'est de dire vite, rapidement. Et puis plus je fais vite, et moins là je sens le Seigneur qui freine. Donc on va prendre le temps, je vais rassembler des gens compétents pour donner une réponse pertinente à cette situation. Il y a des ouvertures qui se font, je crois. Il y a des opportunités, il y a quelque chose qui est là en particulier où Dieu veut nous donner d'exercer une autorité, d'être en confiance au point de dire, elle m'a dit et d'autres adjoints m'ont dit, écoute, on ne s'en sort pas, on a besoin de vous évangéliques dans la rue. Les barbus là, on ne sait plus par qui, bon ça va, c'est enregistré ou, pardon. Bon je vous dis, enfin, on discute de manière très, avec, on ne s'en sort plus. On les envoie dans les quartiers, ils sont en train de faire, ils sont nés là, ils ont été formés, ils reviennent, ils évangélisent. On a besoin, écoutez, deux ou trois adjoints au maire qui disent, on a besoin de vous, il faut que vous occupiez le terrain, vous évangéliques. Il y a des moments, il y a des saisons, il y a des ouvertures, c'est là, et ça se passe pas que chez nous, c'est de partout. Il faut juste être prêt, puis être fils, parce qu'il y a des pièges, il y a des tests, il y a des tentations. Être fils accompli, que cette œuvre se fasse. Que Dieu nous vienne en aide. Je crois vraiment qu'on est dans cette saison où la révélation, les moments de prison cessent, le moment où on était dans le pas visible, il y a un moment de visibilité. C'est le Seigneur qui dit maintenant, c'est le moment où tu vas paraître et tu vas exercer l'autorité. Tu vas être établi pour exercer l'autorité. Écoutez, je vais peut-être finir simplement en disant je vous encourage à étudier la vie des nobles et des princes dans la Bible. Si nous sommes princes, si nous sommes rois, étudions les attributs des rois dans la Bible. Vous savez, quand il y a eu la déportation, à Babylone, le roi, à ce moment-là, a pris les enfants de famille royale et de sang noble. Vous connaissez ce texte-là. Des enfants de rois. C'est-à-dire que c'était Daniel, c'était un noble. Daniel, c'était soit il était de famille royale, soit il était de sang noble. Et il les a pris, il les a mis en esclavage. Mais Daniel, il n'était pas esclave, en fait. Il était en esclavage, mais il n'était pas esclave. En grande liberté. En étudiant les attributs, en étudiant les attitudes, en étudiant l'identité, comment que ça se forme, les réponses, ça va être une révélation ou en tout cas un modèle à suivre de ce que Dieu veut produire dedans de nous pour savoir donner les bonnes réponses dans des situations de test. Il est là, il pendant trois fois, il rend son culte à Dieu, puis il y a un test. Puis les tests dans Daniel, wow. Mais c'est des tests qui touchent à l'identité en vérité. T'es en esclavage ? Est-ce que tu vas répondre comme un fils qui va être révélé? Puis là, c'est eux qui ont le pouvoir. En fait, Daniel avait le pouvoir. Joseph a le pouvoir. Il n'y avait pas de prise sur eux. Aucune prise sur eux. Et en fait, être fils, être vraiment l'être au-dedans, hein, savoir être, déclenche des choses extraordinaires. Nous positionne en position d'autorité et d'influence. C'est là, mais en fait, finalement, Joseph, il l'a fait de l'Égypte une... Tu sais, il a fait de l'Égypte un disciple. C'est extraordinaire. Joseph a fait de l'Égypte un disciple. On a un modèle de la mission que Jésus nous confie, de dire, allez, faites des disciples. Et bien, ça passe par le fait d'être. Je finis juste en citant ce que nous dit Louis XVII. Quand on voulait qu'il dise des grossièretés, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire. Car je suis né pour être un roi.